Bonsoir, Père Nicolas Sautreau.
Bonsoir à vous tous. Oui, la sagesse se trouve dans les psaumes aussi, ainsi que le mystère du Christ. Si vous le voulez bien, alors que le carême, 100% carême, va bientôt s'achever pour laisser la place au temps de la Passion, au temps où nous célébrons un peu en avance la Passion du Christ, nous allons terminer notre méditation sur la prière nocturne des psaumes pendant les 40 jours de la retraite spirituelle qui nous prépare à Pâques. Il y a toute une partie des psaumes des veillées du carême dont nous n'avons pas parlé et qui, par certains aspects, ressemblent aux psaumes de toute l'année parce que ce sont les psaumes de la louange, tout simplement. Les psaumes pendant lesquels nous présentons à Dieu notre adoration et la louange de toute la création. C'est ce que le père Bouillet va appeler les psaumes cosmiques. Les psaumes cosmiques, parce que, avec eux, c'est la création tout entière qui se met à adorer Dieu, mais avec eux, et c'est plus propre au carême, c'est la création tout entière de Dieu qui est en attente de la résurrection, qui est en attente de la rédemption. Alors, dans nos régions, le fait que le carême soit en partie célébré pendant le printemps et pendant l'arrivée du printemps, donne une coloration très particulière à cette volonté d'associer toute la création, tout le renouveau de la nature à cette aspiration à la résurrection, à cette soif de résurrection, à cette soif de vie nouvelle. Et c'est dans cet esprit que les psaumes de louange, les psaumes cosmiques de louange, prennent toute leur place pendant les veillées du temps du carême. Ces psaumes, qui représentent une part importante du psautier en quantité, en volume, vont nous permettre d'avoir une attitude plus proprement d'adoration, plus que de méditation, plus que d'écoute des prophéties et de célébration des aspects du mystère du Christ. Le Christ tout entier, son corps et lui-même la tête, sont en état de louange à l'égard du Père, et un des motifs de la louange, c'est la vie, c'est la surabondance de la vie qui sort du cœur du Père pour venir jusqu'à nous. Toute l'œuvre de Dieu, toute la création de Dieu est considérée comme étant une unité indivisible, un tout unifié par son origine qui est l'amour de Dieu. Dans le mystère de l'incarnation, nous voyons comment Dieu veut que s'unissent indissolublement la création spirituelle et la création matérielle, et que tout le cosmos, donc le monde spirituel des anges, comme le monde matériel auquel nous appartenons en partie, et comme le monde matériel qui n'a pas d'âme, tout est assumé par le Christ et est transformé en un chant d'adoration, un chant de louange, un chant d'amour à l'égard du Père. Dieu avait voulu unir l'esprit et la matière en créant l'homme, eh bien, par l'incarnation, Dieu décide de s'unir lui-même à tout esprit et à toute matière pour les rendre capables de louange et finalement d'amour. Et lorsque l'Église décide de chanter les psaumes de louange, elle s'associe immédiatement à toute la création angélique qui nous initie à ce concert des psaumes, chanter Dieu, bénissez Dieu, louez Dieu, adorez Dieu. Et c'est cette présence angélique pendant la nuit, pendant la veillée de prière, qui vient assurer la profondeur, la largeur, l'immensité de ces psaumes de louange et d'adoration. Lorsque le chrétien se met à chanter ces psaumes ou à prononcer les paroles de ces psaumes, eh bien, il utilise son sacerdoce. Il utilise son sacerdoce baptismal, son sacerdoce de la confirmation, qu'ils l'ont fait prêtre de tout l'univers, et utilisant ce sacerdoce, il implore de Dieu les dons de la rédemption, qui sont les dons de la résurrection et de la Pentecôte. Il y a une manière de louer Dieu qui est en même temps une aspiration et une intercession, et c'est de cette manière-là que ces psaumes de louange ont toute leur place pendant les nuits de prière du temps du carême. Nous vivons la grande louange des psaumes, et en vivant la grande louange des psaumes, nous laissons l'Épître aux Philippiens avec son cantique de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, nous laissons ce cantique, d'une certaine manière, s'accomplir par nous et en nous. Alors que nous sommes simplement en train de dire au Seigneur, nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, grâce aux paroles des psaumes, la prophétie de saint Paul s'accomplit, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est la partie de pure louange qui est dans les psaumes et qui nous permet d'insuffler pendant notre temps de carême cette dimension sacerdotale et cosmique qui est une intense préparation à ce que l'Épître aux Hébreux va venir nous enseigner à nouveau pendant les jours de la Semaine Sainte, que la prière du Christ est exaucée et que la résurrection du Christ peut imprégner toute la création renouvelée dans cette résurrection et dans l'ascension glorieuse. Voilà pour cette partie importante de tout le psautier et importante aussi dans l'utilisation du psautier par la liturgie. Mais on pourrait dire qu'il y a là presque une vue un peu statique, un petit peu immobile du psaume, même s'il y a la prière, même s'il y a l'adoration et la louange. Et que pendant la prière des veillées liturgiques, il faut absolument qu'il y ait une dimension dynamique, une dimension, si on veut, d'action du Christ, d'action avec le Christ. Il n'y a pas que la contemplation, que la méditation, même que la louange, il y a une action rédemptrice qui est liée à la prière du psaume, à la prière des psaumes et à l'appropriation des psaumes. Toute prière liturgique, nous rappelle le Père Bouillet avec son style très particulier, toute prière liturgique est essentiellement une action, un acte. Et un acte très particulier parce que ce n'est pas un acte transitoire, un acte qui passe, que l'on accomplit une fois et qui après, de cette manière, disparaît dans le néant. C'est un acte qui ne ressemble pas aux autres actes de la terre parce que il participe au sacrifice rédempteur du Christ. Et en participant au sacrifice rédempteur du Christ, la liturgie participe à l'éternité du Christ, à l'éternité aussi des actions du Christ. Voilà pourquoi la liturgie devient une action qui a son origine dans l'éternité et qui s'achève dans l'éternité. Et voilà pourquoi c'est une action dont la fécondité, dont l'efficacité surnaturelle ne peut être comparée à aucune autre. Nous devons suivre le Père Bouillet qui dans sa manière de prêcher, sa manière d'être et d'écrire. En fait, lorsqu'il a une idée forte, a envie de la dire plusieurs fois et de la creuser. Il n'a pas toujours un très grand souci d'une écriture parfaitement cartésienne, avec des idées claires et distinctes qu'on aborde les unes après les autres, et une fois qu'on les a abordées, on passe à une autre idée pour ne plus revenir à l'idée précédente. Non, il y a quelque chose qui ressemble à la pensée de l'apôtre Saint Jean, quelque chose qui est très important dans le discours, mérite d'être dit plusieurs fois et d'être approfondi plusieurs fois, au risque de donner l'impression d'une certaine répétition, et on a envie de faire le parallèle avec la liturgie, justement. La liturgie répète les mêmes mots, la liturgie reprend les mêmes mystères tous les ans, jusqu'à ce que nous ayons pu être associés totalement au mystère, donc jusque dans l'éternité, finalement. Cette grande idée, c'est que la prière des psaumes est une action parce qu'ils sont une lutte, parce qu'ils sont un combat. Et pendant le temps du carême, on voit, malgré l'importance des psaumes prophétiques, des psaumes christologiques, des psaumes de louange, malgré l'importance de tous ces psaumes, on voit que les psaumes de combat, les psaumes de guerre, si on veut utiliser le mot qui est derrière l'expression en grec, eh bien, ces psaumes-là sont les psaumes qui donnent un sens particulier au carême. C'est le combat de Jacob avec l'ange. Et ils sont action du Christ, en tant que le Christ va au désert pour combattre l'adversaire, mais aussi que le Christ vient parmi nous pour combattre le mal et pour nous faire communier à sa victoire définitive, à sa victoire absolue et éternelle et infinie sur les puissances mauvaises, les ténèbres qui sont en nous et autour de nous. Le Christ est venu sur la terre pour accomplir un acte particulier, qui est un acte de victoire, et chaque fête de Pâques renouvelle liturgiquement cette victoire du Seigneur Jésus. Oui, le mystère de Pâques, le triduum pascal du Christ livré, crucifié, mort, descendu aux enfers et ressuscité le troisième jour, puis monté aux cieux, tout le mystère de Pâques peut être envisagé sous des angles très différents, sous l'angle de la communion, par exemple, ou sous l'angle de l'illumination, sous l'angle de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais nous pouvons retenir de ce qu'enseigne le Père Bouillet qu'il y a un aspect très général de Pâques qui est celui, encore une fois, du combat, celui d'une forme de guerre. Et nous écoutons à nouveau saint Paul dans la lettre aux Colossiens, le chapitre 2, verset 15, qui écrit « Ayant dépouillé les principautés et les puissances, le Christ leur a signifié librement sa volonté après les avoir assujettis à son triomphe. » Parce que l'esprit du mal, s'étant emparé de l'homme par la tromperie, par le mensonge, et par lui s'étant emparé de tout le cosmos, toute la création, le Christ est venu parmi nous pour reprendre l'empire du mal au père du mensonge, pour briser les armes du mal, le péché et la mort, et rétablir sur toute la créature, toute la création de Dieu, le royaume de Dieu. C'est la vision des évangiles, la vision de saint Paul, et celle qui imprègne notre célébration liturgique. Le Christ a vaincu le péché en demeurant inébranlable devant la tentation du démon, jusqu'à accepter par obéissance au Père la croix où les puissances des enfers le clouaient. Le Christ a vaincu la mort en ressuscitant de la tombe où les saintes femmes se préparaient à embaumer le corps inerte qu'on y avait descendu. Il est vrai, assume comme toujours le père Louis Bouillet, que cette façon de se représenter l'œuvre du Christ, de se représenter Pâques, peut sonner étrangement aux oreilles de beaucoup de modernes. Cette place donnée à Satan, même simplement pour affirmer sa défaite, eh bien cette place donnée à Satan dans la célébration du mystère de Pâques choque. Il y a beaucoup de baptisés qui se sont accommodés de l'esprit du temps au point d'oublier que s'il est nécessaire de croire en Dieu pour servir Dieu, on ne sert jamais mieux le diable que lorsqu'on n'y croit plus. Et ainsi, on peut avoir cette tentation d'effacer tout à fait, ou bien plus faible tentation, de rejeter dans un arrière-plan tellement lointain qu'il devient inaccessible à la pensée ou à la prière, des notions, des approches qui peuvent paraître l'héritage d'un autre âge, et de dire que tout cela, ce sont des représentations heureusement périmées, dont nous n'avons plus besoin en plus. Les pères du désert dont nous avons parlé la semaine dernière et leurs successeurs qu'on appelle les pères de l'Église ou leurs contemporains, les pères de l'Église, n'étaient pas du tout de ce sentiment-là. On peut toujours dire qu'ils avaient de telles idées parce qu'ils manquaient d'expérience de la vie de l'Église, qu'ils étaient des novices en vie ecclésiale, qu'ils étaient beaucoup trop pris encore dans le paganisme ambiant. On peut inventer toutes les excuses, pleines de bienveillance. Il n'empêche que leur façon d'expliquer la liturgie repose en partie sur une telle perception du combat du Christ contre les ténèbres, contre le mal, et surtout, ce qui fait leur cri de joie qui ne cesse pas, la victoire du Christ, la merveilleuse victoire de l'amour sur le mal. Toute notre célébration liturgique, dans son noyau, dans son cœur le plus essentiel, va dire non à de telles tentations. Elle ne va pas hésiter, y compris pendant la veillée de Pâques, à nous faire entrer dans ce combat contre le mal pour nous faire parvenir et à la profession de foi, et au baptême, et à la communion eucharistique. Nous allons devoir à notre tour renoncer, rejeter. Nous allons devoir vraiment être en état de combat contre le mal pour parvenir à la deuxième partie de la célébration de la veillée pascale, qui est la partie des sacrements, la partie des divins mystères, avec les sacrements du baptême et de la confirmation, puis le sacrement de l'Eucharistie pascale. C'est le chemin que veut nous faire parcourir la liturgie de la nuit pascale. Le Christ est le vainqueur. Il est célébré, y compris par la colonne de feu, par le cierge de Pâques, il est célébré comme étant le grand vainqueur, comme étant celui qui a reçu du Père le triomphe de la vie éternelle. Il est vainqueur de la mort va nous répéter inlassablement la prière liturgique pascale. Il est vainqueur de la mort parce qu'il est le vainqueur du démon, parce qu'il est le vainqueur de celui qui a fait entrer la mort dans la création. La croix n'est pas l'instrument d'un supplice auquel il nous faudrait uniquement et simplement compatir, mais la croix est l'arme décisive dans la lutte dont l'apôtre saint Paul nous dit que ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang, mais c'est une lutte contre les principautés, les dominations, les puissances des ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les lieux célestes. C'est la lettre aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Il y a là, sous la plume du Père Bouillet, la volonté de mettre en œuvre une espèce d'obligation de choisir entre une approche romantique de la croix du Christ et une approche réaliste, une approche liturgique, une approche mystique de la croix du Christ. Si toute la liturgie du Vendredi Saint n'est faite que pour la compassion et non pas pour accueillir la victoire de l'amour, eh bien, nous avons vidé la liturgie du Vendredi Saint de ce qu'il y a de plus puissant et de plus profond en elle. Il y a vraiment une espèce de hantise chez le Père Bouillet à ne pas laisser une approche sentimentaliste, une approche trop affective, trop compassionnelle, qui a sa légitimité, à ne pas laisser cette approche envahir tout l'espace du culte liturgique pendant les jours saints. Et pour lui, cette dimension du combat, qui est indissociablement dimension de la victoire, et de la victoire définitive et divine du Seigneur Jésus, toute cette dimension de combat permet d'avoir un vrai équilibre humain, un vrai équilibre dans l'esprit et dans le cœur, pendant qu'on célèbre la liturgie pascale. Cette lutte est évidemment d'un genre à part. C'est cela qu'il va falloir maintenant accueillir dans notre lecture et notre prière des psaumes de combat. Cette lutte, si nous voulons utiliser le mot, cette guerre, n'a rien à voir avec ce qui existe autour de nous en matière de violence, de combat, de révolte, d'insurrection, de guerre, tout ce qui est de l'ordre de la haine de la personne humaine contre la personne humaine. Nous sommes dans un autre niveau. Et c'est grâce à la lumière de Dieu, grâce à la lumière de la sagesse, que nous arrivons à décrypter à travers des mots qui sont pourtant des mots humains, qui sont pourtant des mots de l'histoire de l'humanité, décrypter qu'il s'agit là d'une histoire qui dépasse infiniment l'histoire concrète, l'histoire des civilisations et des personnes. Elle est l'histoire du salut, elle est l'histoire de l'amour divin qui ne laissera jamais sa création demeurer entre les mains du mal. C'est sur cette espérance immense que je vous propose la méditation. Psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Nous avons entendu deux fois le mot ennemi, la domination, la victoire, et ensuite, le jour où paraît ta puissance, pour nous c'est évidemment le matin de Pâques, tu es prince éblouissant de sainteté. Là, la traduction se fait un peu plus difficile et on peut opter pour une autre manière de traduire en disant « avant l'aurore, je t'ai engendré ». Mystère de la préexistence du Fils éternel de Dieu avant toute la création, la coéternité, la consubstantialité entre le Père et le Fils, Ils sont tous les deux éternels. Et donc c'est avant toute la création que le Fils est engendré. Puis le sacerdoce du Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu le Père l'a juré, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Le Seigneur juge les nations, les cadavres s'entassent, il brise les chefs loin sur la terre. Et enfin, l'évocation et de la résurrection et de la Pentecôte, au torrent il s'abreuve en chemin, c'est l'eau de l'Esprit-Saint, c'est le don surabondant de l'Esprit-Saint qui opère la résurrection du corps du Christ, c'est pourquoi il redresse la tête, c'est pourquoi sa tête ressuscite, la tête ressuscite. Voilà le psaume des vêpres du dimanche soir, pratiquement depuis les origines de l'Église, le psaume de la victoire du Christ, chaque dimanche soir qui est un soir de Pâques, chaque dimanche est une fête de Pâques. Le psaume 109, qui non seulement est un psaume qui adore, qui loue la victoire du Christ, mais qui demande la victoire du Christ en nous et dans toute la création. Pas seulement la connaissance du mystère, la connaissance de la sagesse, mais l'action de Dieu, mais la rédemption accomplie par Dieu. Oui, cette lutte, puisqu'il s'agit d'une lutte dont parle par exemple le psaume 109, cette lutte est d'un genre à part. Elle doit être comprise à partir du Seigneur Jésus, à partir du mystère du Christ et non pas à partir de notre expérience de tous les jours. L'arme du vainqueur, c'est la croix dont parle le psaume 109. Et la croix, c'est l'obéissance. Voilà comment nous interprétons le mystère de la croix comme mystère d'obéissance. L'obéissance qui est victorieuse du refus de servir de l'adversaire, mais aussi de toute une partie de la création. C'est l'amour qui écrase l'égoïsme. Un égoïsme qui s'est satisfait de lui-même, qui s'est comme engraissé de lui-même, qui devient maladroit, qui devient balourd, qui devient incapable de finesse et qui est surpris par l'amour, qui est surpris par l'obéissance de l'amour. C'est la liturgie qui ne cesse de nous parler de la stupeur des anges, de la stupeur de toute la création et de la stupeur encore plus forte, encore plus imprévisible des ennemis de Dieu. L'amour surprend, l'obéissance par amour, la mort par amour surprend le mal qui ne comprend plus rien. La sagesse de ce monde est désorientée par la sagesse qui est dans le mystère, c'est-à-dire la sagesse de l'amour oblatif, de l'amour totalement généreux, de l'amour désintéressé. On ne peut pas dire qu'on a compris le christianisme catholique, dit le père Bouillet, aussi longtemps qu'on n'a pas vu qu'il est tout entier dans cette lutte. Et on rejoint là l'intuition primordiale de saint Ignace de Loyola lorsqu'il propose sa méditation sur les deux étendards. Choisir. Choisir son camp. Et choisir le camp de l'amour, le camp de la charité, le camp de Dieu, contre tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est amour de soi, égoïste et complètement recroquevillé sur lui-même. Il y a peut-être quelque chose de juste dans le sentiment que cette lutte peut être horrible pour le chrétien. Ce qui est juste, c'est que il ne s'agit pas de refuser de combattre, mais il s'agit de refuser le mauvais combat. Donc la mauvaise interprétation des psaumes, de ces psaumes d'histoire, de ces psaumes de prophétie, de ces psaumes qui annoncent le Christ, qui annoncent le déroulement de l'action du Christ. Ce qui est redoutable, c'est l'erreur dans l'interprétation de ces poèmes sacrés. C'est de ne pas laisser la liturgie en particulier, toute la tradition spirituelle du christianisme catholique, nous communiquer sa sagesse pour que nous soyons justes dans notre interprétation de telle poésie. Nous devons repousser, finalement, tout combat qui ne se ramènerait pas à celui-là. Et entendre d'une manière très profonde la parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, le verset 30, du chapitre 12, « Qui n'est pas avec moi est contre moi. » Le combat de la charité qui fait que nous refusons les autres combats, ceux qui sont humains, trop humains. Oui, le combat du Christ n'est pas d'homme à homme, n'est pas de personne humaine à personne humaine. La guerre n'est pas entre deux individus humains. Il est dans l'homme. Le combat du Christ va finalement se jouer toujours dans l'homme, entre ce que saint Paul appelle la chair et l'esprit. Et la chair, ce n'est pas le corps. Là encore, il y a une erreur d'interprétation qui peut être réellement tragique, qui peut fermer notre cœur à la lumière de la sagesse de Dieu. Oui, la chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est toute la personne humaine qui se dégrade, corps et âme, et qui se met à ne plus obéir à Dieu. C'est cela, la chair. La chair, c'est le contraire de l'obéissance d'amour au Seigneur Tout-Puissant. Et l'esprit, le grand esprit, c'est celui qui se laisse transformer par l'Esprit Saint, qui, comme le Christ, qui a reçu avec une surabondance illimitée l'onction de l'Esprit Saint, qui, comme le Christ, se laisse remplir de l'amour victorieux sur toute puissance mauvaise. Le conflit pourrait sembler devoir faire se dresser les hommes les uns contre les autres, mais ce n'est pas ce que les psaumes veulent nous dire. Les psaumes nous parlent de cette guerre du glaive que le Christ est venu apporter sur la terre et qui va se jouer essentiellement au-dedans de nous-mêmes, qui va conduire à la libération, qui va conduire à une libération finalement personne par personne, qui agrège petit à petit les membres de l'humanité à l'Église des sauvés, à l'Église de lumière et de gloire. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant, comme les Hébreux demandaient la libération d'Égypte, nous demandons cette libération. Nous demandons cette victoire du Christ en nous, en chantant ces chants de victoire. Libérés, rachetés de l'esclavage, nous souhaitons devenir l'homme nouveau dont parle le Seigneur. On ne peut bien apprendre à aimer comme aime le Christ si l'on ne sait pas en même temps haïr le mal. Telle est une des leçons de sagesse de ces psaumes. Voilà pourquoi Dieu, en voulant préparer la venue de son Fils sur la terre, Dieu a choisi, alors que cela nous semble en partie scandaleux, un peuple guerrier. Dieu, même si la Bible, dans ses passages qui décrivent les victoires du peuple guerrier, la Bible est une interprétation de l'histoire faite sous la conduite de l'Esprit-Saint. Donc la Bible ne nous certifie pas que tous ces actes guerriers ont vraiment existé tels qu'ils sont décrits, et encore moins qu'ils ont été voulus par Dieu ou guidés par Dieu. Tout cela, nous savons bien que c'est une lecture théologique, une lecture aussi plus ou moins spirituelle de l'histoire. Mais Dieu choisit ce peuple guerrier qui était entraîné à la guerre et qui était instruit par une forme de sagesse pour mener des combats, mais qui toujours va être conduit par Dieu à mettre l'espérance de la victoire en Dieu seul. C'est un des grands enseignements de ces psaumes historiques qui nous racontent les combats du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est que la victoire va dépendre du Seigneur seul. Ce qui va s'accomplir comme étant la prophétie du Christ qui remet entre les mains du Père son esprit et qui attend du Père seul la victoire de la résurrection. Ces combats, nous disent les prières des psaumes, vont se poursuivre jusqu'à la fin des temps, au moins sur les lèvres des baptisés. Nul ne demande aux baptisés d'entrer dans de tels combats, mais sur les lèvres, dans la prière liturgique publique, il va y avoir ces chants de victoire, ces chants de combat, qui vont être encore une fois dans des strophes parfois douloureuses, parfois triomphantes, des appels à l'intervention de Dieu, des appels à la miséricorde de Dieu, des appels à la toute-puissance de l'amour divin. Ce combat ne connaîtra de relâche qu'au matin éternel. Ce combat doit être inscrit dans la prière même de l'Église. Il serait facile, sans cette fréquentation des psaumes, de se laisser reprendre insensiblement, tout doucement, par l'esprit du monde, et comme de se reposer sur des lauriers que nous n'aurions encore jamais gagnés, des lauriers imaginaires, de se dire que notre vie ne peut pas se passer à combattre, qu'il y a bien un moment où Dieu nous accorderait toutes les victoires. L'unique lumière qui peut dissiper des prestiges décevants, des séductions, c'est la parole divine, et particulièrement la parole divine contenue dans les psaumes. Ces psaumes sont notre viatique pour ne jamais renoncer à la lutte pour l'amour, à la lutte pour la résurrection, à la lutte pour la vie éternelle. Et voilà pourquoi, pendant ces veillées, qui deviennent spirituellement comme des veillées d'armes, nous laissons les psaumes nous remettre en état de combat, en état de force, pour, avec le Christ, par lui et en lui, aller vers la victoire définitive de l'amour divin. Puisse une telle activité au service de l'amour être toujours entretenue en nous tout au long de l'année par ces psaumes inspirés par Dieu lui-même, et puisse ces psaumes du carême nous aider à recevoir autant que nous le pouvons la victoire totale de l'amour pendant la nuit de Pâques.
Merci Père Nicolas Sautreau. Je vous lis un petit SMS qui est arrivé. Je veux dire un grand merci au Père Nicolas Sautreau pour la richesse et la solidité de ses enseignements. Et c'est Armel Paul qui a envoyé ce message.
Et moi, je dis merci au Père Louis Bouillet.
Et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci Père, à très bientôt.
À la semaine prochaine.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sautereau. Aujourd'hui, nous parlions du carême et des psaumes. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.